Lettre 2. Platon à Denis. Bonheur et sagesse. Archidème m'a fait part de tes intentions. Il faut, dis-tu, que désormais, moi et mes amis, nous nous tenions en repos et cessions de parler et d'agir contre toi. Tu acceptes le seul Dion. Cette exception à l'égard de Dion fait bien voir que je n'ai point d'empire sur mes amis. Car si j'avais quelque pouvoir sur eux, et en particulier sur toi et sur Dion, j'ose me flatter que, vous et tous les autres Grecs, vous seriez plus heureux que vous ne l'êtes. Au reste, toute ma puissance est de n'obéir qu'à ma raison. Et je dis cela parce que Cratistole et Polyxène ne t'ont rapporté que des mensonges. L'un d'eux, dit-on, a entendu ceux qui étaient avec moi aux Jeux olympiques tenir contre toi des discours injurieux. Il a sans doute l'oreille plus fine que moi, car je n'ai rien entendu de semblable. À l'avenir, tu feras bien, je crois, quand on te fera de ces rapports sur quelqu'un des miens, de m'écrire à moi-même et de m'en demander l'explication. Je ne craindrai ni ne rougirai jamais de te dire la vérité. Voici notre position l'un à l'égard de l'autre. Je ne crois pas qu'il y ait un seul Grec qui ne nous connaisse. Tout le monde parle de notre amitié. Et la postérité aussi en parlera, sois-en bien persuadé, à cause des noms de ceux qu'elle unit, du temps qu'elle a duré et de l'éclat qu'elle a jeté. Que conclure de là? Je vais te le faire comprendre en prenant les choses de plus haut. C'est une loi de la nature que la sagesse et la souveraine puissance réunissent. Elles se cherchent l'une l'autre, se poursuivent et finissent par se rencontrer. Aussi est-ce un plaisir pour les hommes de s'en occuper. Ils aiment à en parler et à en entendre parler, soit dans les conversations particulières, soit dans les ouvrages des poètes. Par exemple, si l'on parle d'Hiéron et de Pausanias, le lacédémonien, on se plaît à rappeler l'amitié qu'ils avaient pour Simonide, ce que celui-ci fit pour eux, ce qu'il leur dit. On a l'habitude de célébrer ensemble Périandre de Corinthe, et Thalès de Milet, Périclès et Anaxagoras. On cite Crésus et Solon pour leur sagesse, et en même temps Cyrus pour sa puissance. Les poètes, imitant cet usage, mêlent dans leurs chants Créonte et Tirésias, Polynide et Minos, Agamemnon et Nestor, Ulysse et Palamède. Et si je ne me trompe, les premiers hommes n'ont pas eu d'autre raison pour unir Jupiter et Prométhée. On remarque que les uns s'aiment et que les autres se haïssent, ou qu'ils sont tantôt amis et tantôt ennemis, en d'accord sur un point, en désaccord sur d'autres. Je t'ai dit tout cela pour te montrer que, même après notre mort, on s'occupera encore de nous, et que nous devons y songer. Ce soin de l'avenir est, ce semble, un devoir pour nous, car la nature a voulu qu'il ne fût indifférent qu'à l'esclave, tandis que l'homme bien-né fait tous ses efforts pour laisser à la postérité une réputation sans tache. Et c'est là pour moi une preuve que les morts ont quelque sentiment des choses de ce monde. Les plus belles âmes en ont le pressentiment, et il n'y a que les plus mauvaises qui le nient. Or, ne faut-il pas ajouter plus de foi au présage des hommes divins qu'à ceux des méchants? Pour moi, j'ai la conviction que s'il était permis aux anciens personnages dont j'ai parlé de réformer les relations qu'ils ont eues entre eux, ils n'épargneraient aucune peine pour mériter une autre réputation que celle qui s'attache aujourd'hui à leur souvenir. Quant à nous, s'il plaît à Dieu, il est temps encore de réparer, par nos actions et par nos discours, les fautes que nous pourrions avoir commises. De plus, je crois que la vraie réputation de la philosophie dépendra de la nôtre. Bon, on l'estimera. Mauvais, on la méprisera. Et que pouvons-nous faire de plus sain que de veiller à la philosophie? Quoi de plus impie que de la négliger? Je te dirai ce qu'il faut faire et ce que la justice demande. Je suis venu en Sicile avec la renommée du premier philosophe de ce temps. À Syracuse, mon dessein était de faire confirmer par toi ce témoignage pour que la philosophie fût respectée par le peuple en ma personne. mais l'événement n'a point justifié mes vœux. » Je n'attribuerai pas ce mauvais succès au motif que tant d'autres lui donneraient, mais tu ne paraissais pas avoir une entière confiance en moi. Il semblait que tu voulusses me congédier pour en appeler d'autres à ma place. Tu cherchais à pénétrer mes desseins dont tu te défiais, à ce que j'ai cru voir. De tous côtés, on répandait le bruit que tu n'avais que du mépris pour moi, et que tu pensais à toute autre chose qu'à profiter de mes conseils. Du moins, c'était là le bruit public. Apprends maintenant ce que nous avons à faire pour répondre à la question que tu m'adresses sur la conduite que nous avons à tenir l'un envers l'autre. Si tu méprises tout à fait la philosophie, il ne faut plus en parler. Si tu as appris de quelque autre, ou si tu as découvert toi-même une meilleure philosophie que la mienne, à merveille. Mais si tu es satisfait de mes leçons, il faut me rendre la justice qui m'est due. Sois comme autrefois le premier à donner l'exemple, je le suivrai. Si tu m'honores, je t'honorerai. Si tu ne m'honores pas, je garderai le silence. Pense encore qu'en me traitant le premier avec distinction, on croira que tu respectes la philosophie, et tu obtiendras parmi le peuple cette réputation de philosophe que tu ambitionnes. Si, au contraire, je t'honore malgré tes mépris, j'aurai l'air d'aimer et de rechercher tes richesses. Et nous savons combien un pareil motif est odieux à tout le monde. En un mot, les honneurs que tu me rendras, nous honorerons tous deux, et ceux que je te rendrai seuls, nous déshonorerait l'un et l'autre. Mais en voilà assez là-dessus. La petite sphère n'est pas juste. Archidème te le montrera à son retour. Quant au sujet bien plus grave et bien plus divin sur lequel tu l'as chargé de me consulter, je lui laisse le soin de te l'expliquer. Tu n'es pas content à ce qu'il dit de l'explication que je t'ai donnée de la nature première. Je vais la reprendre sous le voile de l'énigme, afin que s'il arrive quelque malheur à cette lettre sur terre ou sur mer, celui qui la lirait ne puisse en saisir le sens. Voici ce qui en est. Tout est autour du roi de tout. Il est la fin de tout. Il est la cause de toute beauté. Ce qui est du second ordre est autour du principe second, et ce qui est du troisième ordre autour du troisième principe. L'âme humaine désire avec passion pénétrer ces mystères. Pour y parvenir, elle jette les yeux sur tout ce qui lui ressemble, et elle ne trouve rien qui la satisfasse absolument. Il n'y a, dans ce que nous voyons, aucune analogie avec ce roi et ces choses dont j'ai parlé. Mais pour ce qui vient ensuite, l'âme peut en rendre compte. Que dire, fils de Denis et de Doris, de la question que tu me fais, quelle est la cause de tous les maux? C'est là un doute qui déchire cruellement l'âme et qui l'empêche, tant qu'on ne l'en a pas délivré, d'atteindre jamais la vérité. Cependant, un jour que nous nous promenions dans tes jardins, à l'ombre des lauriers, tu me dis que tu avais résolu ce problème sans le secours de personne. Je te répondis que si tu étais bien sûr de ce que tu avançais, ce serait m'épargner beaucoup de peine et de paroles. J'ajoutai que je n'avais jamais rencontré personne qui eût fait la même découverte, et que pour moi, elle m'avait coûté de longues et pénibles recherches. Peut-être as-tu entendu raisonner sur cette matière, et c'est de là que seront heureusement venues tes premières idées. Tu ne me donnais aucune preuve démonstrative, comme tu aurais fait si tu avais été bien sûr de toi, mais tu te laissais entraîner de côté et d'autre au gré de ton imagination. Ce n'est pas ainsi qu'on vit d'une question de cette importance. Au reste, tu n'es pas le seul à qui pareille chose soit arrivée. Tous ceux qui m'ont entendu pour la première fois ont éprouvé de la difficulté, les uns plus, les autres moins, mais il n'y en a presque aucun à qui cette étude n'ait coûté de la peine. Cela étant, je crois avoir trouvé la réponse à ta demande relativement à la conduite que nous devons tenir l'un envers l'autre. Examine bien, en conférant avec d'autres personnes, mon opinion en elle-même est comparée aux autres opinions. Et si tu ne t'es laissé guider que par la raison dans cet examen, tu seras nécessairement de mon avis, comment n'en serait-il pas ainsi sur ce point et sur tout ce que nous avons dit ? Tu as très bien fait, dans cette occasion, de m'envoyer Archidème. Quand, à son retour, il t'aura rendu compte de mes réponses, il s'élèvera peut-être de nouveaux doutes dans ton esprit. Si tu m'en crois, tu me le renverras, et il ne retournera près de toi qu'avec de bonnes emplettes. Et quand il aura fait deux ou trois fois le voyage, et que tu auras bien réfléchi sur ce que je t'aurai envoyé, je serai bien étonné si ce qui t'embarrasse à présent ne devenait pas parfaitement clair. N'hésitez donc pas de faire ce que je vous conseille. Toi et Archidème, vous n'entreprendrez jamais de négoce ni plus beau ni plus agréable aux dieux. Mais prends bien garde que ces mystères n'arrivent aux oreilles des ignorants. Car je crois qu'il n'y a pas de doctrine qui paraisse plus ridicule au peuple que celle-là, quoiqu'il n'y en ait pas qui plaise davantage aux hommes bien nés et qui excite plus vivement leur enthousiasme. Cette doctrine, il faut la méditer souvent, l'étudier sans cesse. Comme l'or, elle ne se purifie qu'après de longues années et de grands travaux. Mais écoute ce qu'il y a ici d'étonnant. Il est des hommes en assez grand nombre, tous ce genre d'esprit, doués d'une mémoire heureuse et d'un jugement sûr et pénétrant, déjà avancés en âge, et connaissant cette doctrine depuis au moins 30 ans. Eh bien, ils assurent que ce qui autrefois leur semblait le plus incroyable est maintenant pour eux très digne de foi et très certain, et que ce qui leur paraissait indubitable n'a plus aucune certitude. Garde-toi donc de perdre patience et de te laisser dégoûter par le mauvais succès que tu as eu jusqu'à ce jour. Aie soin surtout de ne rien écrire sur ces matières. Il faut tout confier à la mémoire, car on n'est jamais sûr que le papier ne nous échappera pas. Aussi je n'ai jamais rien écrit, et il n'y a, et il n'y aura jamais d'ouvrage de Platon. Ceux qu'on m'attribue sont de Socrate, quand il était jeune, et déjà remarquable par sa sagesse. Adieu et crois-moi, quand tu auras lu et relu cette lettre, jette-la au feu. En voilà assez sur ce point. Quant à Polyxène, tu es étonné que je ne te l'ai point envoyé. Mais j'ai de lui la même opinion que de Lycophron et des autres philosophes qui sont auprès de toi. Je le dis et je le répète depuis longtemps, aucun d'eux ne peut être comparé, ni pour la force du génie, ni pour le talent de discuter. Et s'il te cède dans la dispute, ce n'est pas volontairement, comme quelques personnes le croient, mais bien malgré eux. Il me semble que tu t'es assez servi d'eux et que tu les as suffisamment enrichis. Je n'en dirai pas davantage. C'est déjà trop sur de pareils gens. Si Philistion va en Sicile, profites-en ainsi que de Speusippe, que tu nous renverras. Ce dernier a même besoin de toi. Pour Philistion, j'ai sa promesse. Si tu lui en laisses le loisir, qu'il viendra tout de suite à Athènes. Tu as bien fait de le tirer des carrières, et il est superflu que je m'intéresse auprès de toi pour ses amis et pour Hégésippe, fils d'Ariston, puisque tu m'as écrit que si tu apprenais qu'on fit la moindre injustice à l'un ou aux autres, tu ne le souffrirais pas. Il faut rendre justice à Lysiclide. Il est le seul de ceux qui sont passés de Sicile à Athènes, qui rendent compte de noires liaisons sans blesser la vérité. Il ne cesse d'en parler en termes avantageux et tout à fait honorables.